I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Laberry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Aurélie Cerfon, qui est journaliste chez Welcome to the Jungle, à l'occasion d'un livre qui s'appelle « Vous êtes unique, montrez-le », le guide du personal branding. Ce livre est vraiment très très intéressant et j'ai voulu interviewer Aurélie pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur le personal branding, sur l'image que vous donnez de vous en dehors de quand on vous rencontre directement. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Aurélie.
Bonjour Gaël.
Alors Aurélie, je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Vous avez passé 10 ans en agence de communication et à 34 ans, vous avez décidé de vous reconvertir dans votre métier de vos rêves, journaliste. Alors déjà pour Happy Work, rien que ça, une reconversion réussie, c'est vous deviez être invité dans Happy Work, mais c'est pas pour ça que j'ai souhaité vous interviewer, c'est parce que vous venez de sortir un livre avec Welcome to the Jungle chez Hachette Pratique le 1er juin et c'est un guide dédié au personal branding qui s'appelle « Vous êtes unique, montrez-le », le guide du personal branding. Et cet ouvrage donne les clés pour comprendre l'art de se raconter pour sortir du lot dans le monde professionnel et aide les professionnels à dessiner une image qui leur correspond vraiment et permet de se créer un nouveau passeport professionnel afin de répondre aux défis du quotidien. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de vous dire « Waouh, c'est quand même balèze !» Mais avant de parler du livre en lui-même, Aurélie, je voulais savoir pourquoi ce livre.
Alors vraiment, donc ce livre, donc je l'ai rédigé dans le journalisme et au nom de la rédaction de Welcome to the Jungle, on est plusieurs à avoir contribué à cet ouvrage. Pourquoi ce livre? Parce qu'en fait, ça répond vraiment à quelque chose qu'on a identifié donc chez Welcome. Donc pour rappel, on est un média donc qui est un média spécialisé donc dans le monde du travail.
Alors je précise et je vous interromps que celles et ceux qui ne connaîtraient pas Welcome to the Jungle, allez-y, c'est juste formidable. J'adore, mais je donne pas dans la flagornerie, très rarement. J'adore Welcome depuis que c'est créé, en fait. Voilà. Donc, ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Revenons au livre, ma chère Aurélie.
Ça nous fait un point commun, moi aussi, j'adore.
Et vous, en toute objectivité, parce que votre patron ne vous écoute pas, bien entendu.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et donc, pour expliquer, effectivement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Welcome, c'est à la fois donc un job board sur lequel on peut candidater, donc trouver un emploi, et c'est à la fois donc un média qui est vraiment engagé dans la promotion d'une approche plus humaine et plus positive du monde du travail. Et donc voilà, on produit beaucoup d'articles et de vidéos pour accompagner et inspirer un peu tout le monde sur ce grand chemin de l'épanouissement professionnel.
Je recommande d'ailleurs vivement, c'est une vidéo qui doit dater maintenant d'il y a longtemps, mais les vidéos que vous aviez faites avec Joey Stark qui sont juste des petits bijoux.
Ah oui, c'est des petites pépites. Ah, c'est vrai qu'elles sont drôles, faites par notre cofondateur Bertrand, qui a beaucoup d'humour. Effectivement, elles sont très bien. Et donc, dans cette optique de se faire sa place un petit peu dans le monde professionnel, donc on identifie plusieurs sujets majeurs. Et le personal branding s'est un petit peu imposé à nous comme un sujet vraiment déterminant pour un petit peu apprendre à mieux parler de soi, raconter son histoire, parce qu'on est persuadé que c'est, on est plutôt convaincu que c'est la bonne façon de trouver en fait les meilleures opportunités, quoi, celles qui sont vraiment faites pour nous. Et donc on a longuement discuté de ce sujet, et puis Hachette aussi, ça faisait plusieurs fois qu'il nous proposait des collaborations, et on s'est dit allons sur ce guide du personal branding, parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et ce qu'on avait vu dans l'existant, on trouvait que ça allait pas assez loin, enfin c'était pas la bonne démarche. Donc on a décidé
vous êtes lancé. Alors, sans résumer tout le livre, parce que quand même, il va falloir le lire, ce livre, le personal branding, vous résumeriez ça comment?
Alors, c'est l'idée de créer, donc en bon français, sa marque personnelle. C'est un petit peu, en fait, c'est la question de son image professionnelle qui se pose. C'est un peu l'image qu'on renvoie en fait aux autres. Mais en fait, il n'y a pas que l'image, parce que la marque, ça peut être, c'est un peu plus large. On parle beaucoup de la marque employeur pour les entreprises. C'est un peu la même chose, mais donc assigné à un individu, quoi. Et c'est un peu tout ce qu'on va ressortir de nous. Donc c'est élaborer son histoire, mais aussi c'est affirmer ses ambitions professionnelles, où on veut aller. En fait, l'objectif, c'est que les gens pensent à nous quand ils ont une opportunité qui peut nous correspondre, quoi.
Et ça passe, j'imagine, énormément par les réseaux sociaux.
Effectivement, il y a à la fois l'image qu'on renvoie dans la vie réelle, bien sûr, mais aujourd'hui, l'identité numérique, clairement, c'est un incontournable. Et voire pour les nouvelles générations, on donne quelques chiffres dans le livre, mais notamment la génération Z, dont on parle beaucoup dans les médias, c'est limite l'identité digitale qui va prévaloir sur l'identité réelle. Donc effectivement, toutes les traces qu'on laisse sur Internet et tout ce qu'on partage et tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux nous raconte aussi. Donc c'est évidemment à surveiller et à travailler pour s'assurer finalement que ça revient aux intérêts, quoi.
Mais en fait, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est absolument écrasant. Il n'y a plus un seul recrutement qui se fait sans qu'on googlise le candidat.
Bah, clairement, c'est un peu un réflexe, d'ailleurs, même qu'on a souvent, nous, dans notre vie personnelle.
Oui, dans d'autres circonstances, parfois aussi.
Là. Mais c'est le cas, évidemment, dans le milieu pro. Maintenant, aujourd'hui, quand on croise quelqu'un, quand on va rencontrer quelqu'un, on a souvent, en tout cas comme premier réflexe, de googliser le nom et la prénom de la personne. Qui est complètement généralisé, même pour les recruteurs, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est très important de veiller à sa e-réputation, mais au-delà même de juste avoir une bonne réputation, ça va être vraiment intéressant de prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour vraiment se différencier des concurrents, quoi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, notamment sur les jeunes générations. Alors moi, il se trouve que j'ai une collection d'enfants à la maison, et notamment des jeunes adultes. À partir de 5, on commence à parler de collection quand même.
C'est
pas mal, hein. Et en fait, je leur dis... Les amis, allez vérifier vos Facebook, vos Insta, tous vos réseaux sociaux et mettez en privé certaines photos parce que je suis pas sûr qu'un recruteur ait très envie de vous voir à poil sur une table en train de danser avec vos potes.
Non, clairement, c'est pas la meilleure idée pour convaincre de se faire embaucher. En fait, évidemment, on utilise beaucoup les réseaux sociaux à la fois pour le perso et à la fois pour le pro, notamment LinkedIn, hein, qui est devenu aussi un incontournable de...
Bien sûr.
Professionnel. Donc il y a plein de méthodes et de choses à faire qu'on détaille un peu plus dans le guide, mais oui, globalement, ça peut être vraiment très intéressant de limite même parfois se prendre un pseudo pour nos activités privées. C'est le cas si on est très actif sur les forums en ligne, qu'on prend la parole sur des sujets, etc., mais qu'on n'a pas forcément envie que ce soit associé à sa vie professionnelle, parce qu'on peut... On est tous pluriels, donc on a tous plusieurs vies. Et en tout cas, à minima, voilà, de effectivement protéger toutes ces données. Toutes ces données un peu personnelles et régulièrement d'aller checker quand même ce qui ressort quand on tape nos noms dans Google. On peut aussi d'ailleurs se créer une alerte. C'est très simple à faire et ça nous permet d'être tout de suite alerté dès qu'il y a un nouveau contenu associé à notre nom et qui sort sur les réseaux, quoi.
Alors Aurélie, maintenant je vais vous considérer comme ma spécialiste du personal branding. J'aimerais vous soumettre un exercice.
Ouais.
Plutôt un questionnement. C'est dans mes conférences, parfois, je parle de l'image numérique et je montre une photo, une vraie photo que j'ai trouvée sur LinkedIn, une photo de profil. Mm-hmm. Et essayer de visualiser un homme torse nu, très musclé, avec une haltère dans le bras droit, où on voit vraiment qu'il a des biceps assez impressionnants. Alors, on peut se dire, ce mec est coach sportif, c'est vendeur. Sauf que le type est comptable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et donc, cette photo, elle serait sur LinkedIn, c'est ça?
Oui, c'est sur LinkedIn. Et je dois dire que personnellement, c'est peut-être parce que je suis vieux et ringard, j'ai trouvé ça assez déconcertant. Est-ce que le personal branding, c'est pas justement de mettre en rapport un peu, sans être schizophrène bien entendu, mais de mettre en rapport ce qu'on veut raconter comme histoire professionnelle avec l'image qu'on donne? Et même si le mec était incroyablement gaulé, en tant que comptable...
Ouais, je pense qu'il y a l'idée de la cohérence là-dedans qui est... Moi, là, ce que je projette, c'est quelque chose d'un peu dissonant, c'est-à-dire que cette image aurait peut-être été appropriée dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que sur LinkedIn, il y a quand même des codes professionnels. En fait, le but, c'est d'exprimer qui on est, mais ça nous nous exempte pas de respecter quand même les codes professionnels dans tout ce qu'on entreprend et dans toutes nos prises de parole. Donc, clairement, pour moi, ça serait un peu un loupé parce que je suis pas sûre que ça envoie en tout cas les bons messages adéquats par rapport à sa vie professionnelle, sauf s'il projette, je sais pas, de se reconvertir en coach. Pourquoi pas?
Oui, ça peut être une stratégie, mais c'est pas ce que j'avais vu. Bon, bah, ça me rassure, je suis pas complètement décalé. Alors, quand j'ai lu votre livre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est encore un anglicisme. En fait, je me demande si chez Welcome to the Jungle, du fait de votre nom, vous abusez pas un peu parfois des anglicismes. Mais ça, c'est ma remarque perso. Vous proposez un mood board de sa personnalité. Un, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est le mood board de sa personnalité? Et deux, c'est une question complémentaire à ça. C'est est-ce qu'il n'est pas fondamental de se connaître soi-même avant de commencer à penser à sa réputation et sa réputation?
Si, complètement. Alors, sur l'anglicisme, bon, mea culpa, mais
c'est vrai. Non, mais je plaisante. C'est... je vous rappelle que vous êtes sur un podcast qui s'appelle Happy Work, donc j'aurai mauvaise grâce de vous reprocher les anglicismes.
Et bon, pour notre défense, on est aussi un média international présent.
Je plaisante.
Dans d'autres pays, donc, bon, c'est vrai qu'on use un petit peu parfois de...
C'est lundi matin quand on enregistre cette interview et mon humour est déjà bien pourri en fin de semaine, mais je crois que c'est au taquet lundi.
Franchement, je vous en veux pas du tout.
C'est gentil.
Et donc effectivement, en tout cas pour revenir à la question, clairement c'est la première brique à poser, c'est le plus important, c'est fondamental quand on se lance dans une démarche de personal branding, c'est d'abord passer par la case introspection, apprendre à bien se connaître pour bien parler de soi, c'est vraiment le bon chemin, quoi. Sinon on aura vraiment du mal à créer une image qui nous est fidèle. Et donc, le mood board de la personnalité, c'est un petit peu la conclusion de la première partie qui est proposée dans le guide, qui est donc cette première partie introspective où on va vraiment identifier un peu les traits de notre personnalité, nos valeurs personnelles, nos compétences, celles qu'on a envie de mettre en avant. Et en fait, ça va nous donner un peu une, j'allais dire big picture, mais du coup, j'essaie de me reprendre, une image globale. De tous ces traits importants de notre personnalité qu'on a envie de refléter en fait dans l'image qu'on va renvoyer. Et donc voilà, ce petit mood board va nous permettre de... C'est un peu comme un rappel, quoi, si vous voulez, parce que après, on va forcément créer des contenus, multiplier nos prises de parole. Et donc, c'est un bon rappel de savoir est-ce que vraiment ça me correspond, est-ce que c'est bien moi, est-ce que c'est bien les valeurs que j'ai envie de porter, les ambitions professionnelles que j'ai identifiées, etc. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de cette première partie. On a des petits exercices à faire qui sont très simples. Hein. Mmh. C'est essentiellement des questions à se poser qui vont nous permettre de nous aider à mieux se connaître.
Mais en plus, ça permet, une fois qu'on se connaît mieux, également de mieux identifier les entreprises dans lesquelles on veut travailler. C'est
complètement.
Ça
complètement, c'est clairement, même c'est l'une des missions portées par Welcome to the Jungle, hein, qui est encore une fois aussi un job board qui fait matcher du coup les entreprises avec les candidats. Et donc les entreprises qui sont présentes sur notre site, elles ont vraiment un profil où elles peuvent détailler leur mission, mais aussi leurs valeurs. Il y a des interviews, des personnes qui y travaillent, il y a des chiffres, il y a plein d'informations. Et c'est vraiment cet objectif de faire matcher en gros à la fois notre personne, ce qu'on veut, ce qu'on a dans notre travail, ce qu'on veut pour nous, et les entreprises qui partagent les mêmes visions, les mêmes valeurs, quoi. Et c'est l'idée aussi avec le personal branding, c'est vraiment révéler un petit peu plus qui on est pour essayer de rencontrer en gros les bonnes équipes, quoi, les bons projets.
Mais est-ce que, alors c'est une question un peu naïve, mais est-ce que parfois il faut pas à minima mentir par omission, voire mentir? Est-ce que c'est encore possible de mentir sur son CV, sur son LinkedIn, par omission ou pas par omission? Qu'est-ce que vous diriez, vous?
Je dirais que mentir éhontément sur quelque chose de vraiment capital dans son parcours...
Sur un diplôme, ça se fait pas.
Moi, c'est pas quelque chose que je recommande, hein, clairement, parce que je pense que déjà, ça peut nous retomber un petit peu sur... ça peut nous retomber dessus, donc pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. Après, vous parlez de mentir par omission. Après, je pense qu'on n'est pas non plus obligé de tout dire. En fait, on peut aussi choisir la partie de notre histoire qu'on raconte, parce que dans telle situation, en gros, ça peut brouiller un message. On le sait, par exemple, en ce moment, c'est ma génération, mais j'en suis la preuve, mais je suis évidemment pas la seule. Les parcours linéaires, ils sont de plus en plus rares, donc c'est de plus en plus fréquent qu'on ait plusieurs vies professionnelles. Je pense pas qu'il faille le cacher. Après, parfois, juste au moment de se pitcher, comme on dit souvent, les pitchs professionnels, il faut trouver en fait la manière de raconter son histoire sans embrouiller la personne qui est en face de nous avec trop d'informations qui vont pas ensemble, quoi, si vous voulez. Mais en tout cas, je pense que en vrai, il n'y a pas tellement de situations qui soient indicibles. Je pense même si on a connu un échec professionnel, même si je sais pas, on a été licencié, si on a connu un burn-out. Pour moi, il est tout à fait possible d'en parler à partir du moment où on a vraiment digéré la situation et on est capable, voilà, d'expliquer ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, éventuellement ce qu'on en a appris. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on est de plus en plus ouvert à la discussion. C'est le cas aussi pour les recruteurs. Je pense qu'on peut. Il faut juste apprendre, voilà, à raconter ces épisodes-là, mais je pense qu'on peut tout à fait les aborder.
Bien sûr. Alors, moi, je valide tellement, enfin, dans une ancienne vie, donc avant d'être saltimbanque, j'ai beaucoup, beaucoup recruté dans ma carrière, et il n'y a rien de pire qu'un candidat totalement lisse, qui a soi-disant fait aucune erreur, qui est absolument parfait. On se dit, non, mais c'est chelou quand même. C'est quand même chelou.
Ouais, c'est limite suspect, quoi, parce que finalement. Des aspérités, et j'ai envie de dire tant mieux, c'est ce qui fait aussi la richesse des rencontres, et moi je me dis toujours que finalement la personne qui est en face de moi, alors je dis pas, hein, c'est pas toujours évident de penser comme ça, mais si on arrive à le faire, faut se dire que voilà, la personne en face de nous, elle aussi, en fait, elle arrive avec son bagage, peut-être qu'elle aussi, elle a eu des trous dans sa carrière, et que en fait,
elle a appris des choses de ça, c'est ça qui est formidable, c'est d'apprendre en fait. Alors attention, je vais faire le vieux sage japonais. Je cite toujours, j'adore ce proverbe japonais qui dit « Réussir, c'est savoir tomber 7 fois et se relever 8 ».
Bah, clairement, moi je pense que c'est tout à fait le cas. Bah, d'ailleurs, on parle beaucoup, enfin on a beaucoup parlé de résilience avec les pandémies, etc. Mais clairement, on le sait, quoi, quand on a eu un petit parcours de vie déjà, la vie professionnelle, elle est jamais linéaire et qu'il faut évidemment toujours savoir rebondir. D'ailleurs, heureusement, quoi, c'est comme ça qu'on apprend.
Alors Aurélie, sans spoiler tout le livre, mais je vais vous demander une forme de petite bande-annonce pour donner envie. Et je vais vous demander deux choses. La première, la boulette à surtout pas faire quand on parle de son image personnelle, mais vraiment la boulette. Et le conseil simple que tous les auditeurs et toutes les auditrices de Happy Work pourraient appliquer dès qu'ils finissent d'écouter cet entretien. Donc la boulette et le petit conseil qui est dans le livre.
Alors la boulette, alors je dirais que s'il n'y en a qu'une, vraiment, enfin, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, je pense, c'est essayer de se créer une image qui ne ressemble pas. Et en fait, ça peut paraître évident, mais franchement, ça l'est pas, parce que je pense que c'est humain. On peut être tenté de recopier, par exemple, des modèles qu'on voit sur LinkedIn. On se dit, ah bah tiens, telle personne qui fait le même métier que moi, ça fonctionne très bien pour lui. Bah, je vais un petit peu recopier les publications qu'il fait.
En fait, le clonage, mais vous savez, ça a été une de mes batailles. Alors, ça remonte, non, pas au siècle dernier, parce que c'était début des années 2000, j'étais chez TF1 et j'étais un des rares mecs qui n'avait pas de cravate. À l'époque, c'était très cravate encore. Et quand j'avais un rendez-vous avec Patrick Lelay, mes directeurs généraux étaient terrifiés. Et en fait, je dis toujours, donc depuis longtemps, qu'il ne faut pas jouer un personnage, parce que si, mais même avec le détail d'une cravate, qu'est-ce qu'on est mal quand on joue une personne que l'on n'est pas au quotidien.
On se sent déguisé, quoi, finalement. On a l'impression de porter un masque. Et clairement, vu le temps qu'on passe au travail, c'est quand même dommage de subir ça. Puis j'ai toujours l'impression que ça finit toujours par nous péter au visage, quoi, de toute façon.
Et à un moment, si quelqu'un... Mais j'ai encore des débats, vous savez, Aurélie, aujourd'hui, avec des gens où on parle de personal branding, et je dis, mais si jamais la personne en face de moi ne me recrute pas parce que je ne mets pas de cravate, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour cette personne?
Mais complètement. Mais c'est vraiment d'ailleurs tout l'intérêt de la démarche. Hein. Quand on dit, voilà, on révèle un petit peu plus de soi, c'est aussi parce qu'on a envie de matcher avec les bonnes équipes. Et moi, il y avait par exemple une experte, d'ailleurs en personal branding, que j'avais interviewée dans le cadre du livre, qui m'expliquait qu'elle avait par exemple dans son quotidien, et donc y compris dans son travail, un langage assez familier. Donc ça ne veut pas dire qu'elle était vulgaire, mais voilà, elle parlait de manière familière et voilà, c'était sa façon d'être. Et elle me disait, mais moi, je l'assume totalement, en fait, dans ma marque personnelle, parce que demain, quand je vais travailler au quotidien avec quelqu'un, si ça pose problème avec mon collaborateur, en fait, j'ai pas envie de travailler forcément dans ces conditions quand j'ai pas envie de faire semblant au quotidien. Et je trouvais ça plutôt plutôt rafraîchissant comme approche. C'est un peu comme ce que vous disiez avec la cravate, ouais. quoi. C'est assumer un petit peu plus sa façon d'être et surtout que franchement la plupart du temps il n'y a pas forcément d'ordre. Il y a évidemment certains secteurs professionnels où on a plus ou moins de liberté. Il y a des professionnels qui sont beaucoup plus lourds. Évidemment, si on est avocat d'affaires, on ne pourra pas se permettre
d'arriver en tongs.
Voilà, par
c'est
exemple.
C'est plus rare.
Ou de mettre même un emoji dans un mail, je ne suis pas sûre que ça passe encore.
Ça, c'est la boulette. Donc, jouer un personnage. Donc, OK.
Voilà.
Et le petit conseil que je pourrais appliquer dès qu'on raccroche.
Le petit conseil, ce serait d'acheter le livre.
Oh, mais comment je l'ai vu venir, celle-là, Aurélie? Mais comment je l'ai vu venir?
Bah ouais, elle était trop cette page, donc j'étais obligée de la prendre.
Forcément.
Non, je parle du guide parce qu'en fait, ça nous donne plein de conseils et vraiment tout le chemin pour arriver à le faire bien. Mais en tout cas, voilà, minima, c'est de plus peut-être prendre la parole, se poser la question sur l'image qu'on renvoie, voir si elle reflète vraiment qui on est et nos aspirations professionnelles, parce que clairement ça peut être ça peut vraiment changer une carrière, quoi. Enfin, moi j'ai vu plein de personnes qui ont des marques personnelles actives et elles me disent par exemple si elles sont freelance, elles me disent mais je cherche pas de clients, j'ai jamais prospecté de ma vie, en fait je me suis juste exprimée en fait un peu plus que les autres peut-être sur les réseaux et les projets sont venus à moi. Et c'est tout à fait valable pour d'autres situations, si on cherche un emploi, si on veut installer, se faire identifier en tant qu'expert dans son domaine. Enfin, en vrai, ça peut servir tous nos objectifs, quoi. Donc, c'est vraiment dommage de s'en priver. Et donc, essayer de un petit peu plus déployer sa présence, notamment sur les réseaux sociaux pour.
Mais ça, je confirme tellement ce que vous dites, Aurélie. Alors, je suis très, très vexé que vous ne m'ayez pas interviewé dans le cadre de ce livre. Mais au-delà de ce reproche absolument lamentable et totalement égocentré, c'est vrai qu'une image personnelle sur les réseaux sociaux qui pèse, j'ai strictement aucune démarche pour trouver des clients, zéro, depuis des années et des années. Mais ça marche aussi pour des gens qui ont des belles images personnelles pour trouver un nouveau boulot. Ils vont se faire chasser. Donc, il y a vraiment tellement d'avantages à travailler son image personnelle. Mais parfois, je trouve que ce mot personal branding peut effrayer les gens, mais c'est pas le cas avec votre livre et il faut passer ce stade-là. Non, mais vraiment, je trouve qu'il est très agréable à lire, il est très simple, il est très pragmatique. Mais nous n'en avons pas fini puisqu'il reste une question, Aurélie. Traditionnellement, mes invités, je leur demande leur mantra ou leur citation préférée. Aurélie, avez-vous bien travaillé?
Alors, j'ai bien travaillé.
C'est bien.
Et donc, je suis très contente de citer donc Jean-Paul Sartre, qui est un immense auteur, évidemment, et philosophe. Et donc, je reviens sur cette question de l'authenticité parce que pour moi, c'est vraiment... ça a été un peu la trame de fond de tout le travail qu'on a essayé de faire dans ce guide. La citation, c'est « L'authenticité, c'est d'être le même à travers toutes les situations, un projet unique. » Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi de cette démarche en personal branding, c'est le fait de rester authentique. Et ce que nous dit Jean-Paul Sartre, c'est le faire à travers toutes les situations, tout ce qu'on entreprend. Encore une fois, c'est pas forcément chose aisée parce que c'est pas toujours facile de pas être sous influence, notamment à travers ce qu'on voit via les réseaux sociaux. Donc oser être soi-même, c'est plus complexe que ça en a l'air et ça peut en tout cas vraiment être une source d'épanouissement.
C'est marrant que vous sortiez cette phrase, qu'il y a un article que j'ai écrit il y a quelques années, le titre était « Soyez originaux, soyez vous-même ». Parce que malheureusement, on joue beaucoup trop des personnages et c'est pas forcément la bonne solution. Donc votre livre tombe à point, je l'ai trouvé vraiment très agréable à lire et très pertinent. Donc je conseille à tout le monde de lire ce livre qui est sorti donc ce mois-ci par Welcome to the Jungle. Donc Aurélie Cerfon, si j'ai bien compris, vous êtes l'une des autrices et mais je vous considère comme l'autrice principale, parce que c'est à vous que je parle, et qui est sortie chez Hachette Pratique. Donc n'hésitez pas à courir chez vos libraires pour le trouver. Aurélie, je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez accordé, c'était absolument passionnant. Et j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous.
Tout pareil.
Au revoir.
Au revoir.